Chapitre 2, partie 2, texte 2, page 88. Roger Frison Roche, premier de cordée. Prisonnier de la montagne.
Jean Servetaz reconnaissait tous ces signes avant-coureurs d'un coup de foudre. Les autres obéirent, comprenant que le danger était proche. Et les trois hommes se jetèrent dans l'abîme par où ils étaient montés, dévalant les gros blocs avec frénésie. Lorsqu'ils furent un peu en retrait du sommet, Jean poussa ses deux compagnons sous l'abri d'un surplomb. Il était temps. Dans un fracas titanesque, la foudre s'abattit sur le sommet qu'ils venaient de quitter. La montagne parut vaciller sur sa base. Et il sembla aux alpinistes que le dru venait d'éclater comme sous un formidable coup de bélier. Le bruit du tonnerre se répercuta longuement, renvoyant sa canonnade d'une paroi à l'autre des gorges, au hasard de l'écho. Le silence se fit ensuite. Plus étrange encore que le tumulte. Dans le jour laiteux, la figure du guide apparut à Warfield. Empreinte d'une extraordinaire gravité, ses traits étaient tirés et il fixait sur son client un regard chargé de reproches. Warfield voulut faire des excuses, Jean ne lui en laissa pas le temps. « On y a échappé ce coup-ci, » dit-il. « Fuyons, ça devient malsain, Georges, passe en tête !» Tu poseras les rappels. Vous, monsieur Warfield, tâchez de descendre aussi bien que vous êtes monté. On pourra peut-être regagner la vallée. Peut-être, car ceci n'est qu'un début. Un deuxième coup de foudre déchaîna à nouveau une invisible artillerie. C'est tombé sur la sans nom, déclara Georges tout en sortant du sac la corde de rappel. Oh, si seulement ça pouvait neiger, dit le guide. J'aime encore mieux ça que la foudre. Le brouillard cloisonnait l'étroite plateforme entre ciel et terre sur laquelle se trouvaient les trois hommes. Ils se sentaient prisonniers de la montagne et l'Américain, qui ne disait plus rien, attendait, ne voulant pas s'attirer par une parole malheureuse des reproches qu'il n'avait que trop mérités. Georges prépara le rappel. Les restants d'un vieil anneau de corde blanchi et effiloché pourrissaient autour d'un bloc de granit. Il le remplaça par une boucle de corde neuve dans laquelle il fit passer à double les 50 mètres de sa corde. Debout, au bord du vide et cherchant à percer le mystère de la paroi, le porteur projeta bien horizontalement le rappel pour que les deux brins ne s'en mêlent pas. La corde se déroula en sifflant dans l'air comme un lasso, puis retomba le long de la paroi à l'endroit précis choisi par le jeune homme. Par ce fil ténu, les trois alpinistes descendirent. Ils allaient farouchement dans la demi-obscurité laiteuse, répétant inlassablement la même manœuvre. Plier la corde, fixer le rappel, le lancer, le dégager, cherchant leur itinéraire, reconnaissant la route à suivre au moindre détail, une plateforme, un piton rouillé dans une fissure, un bout de corde effiloché, déjà tout givré. Le calme était revenu et les quelques rares paroles qu'ils échangeaient, amplifiées par le brouillard, semblaient sortir d'un haut-parleur. Encore deux ou trois longueurs de corde et ils aborderaient les grandes difficultés. Déjà, les plateformes s'amenuisaient, il fallait souvent se glisser de l'une à l'autre par des traversées à flanc de parois très hasardeuses. Comme ils atteignaient un petit mur vertical de 8 à 10 mètres, l'air vibra très doucement, comme au passage d'un fluide. Les vibrations s'amplifièrent et ce fut à nouveau le bourdonnement d'un essaim, le chant des abeilles. En entendant pour la seconde fois le bruissement mortel, les deux guides pâlirent sous le hâle. Ce bruissement, ce bourdonnement, c'était à nouveau l'indice formel d'une extraordinaire teneur en électricité statique. Le brouillard, la montagne, eux-mêmes étaient à ce point prégnés de fluide qu'une décharge de la foudre était inévitable. « Vite, vite !» hurla Servetaz. « Georges, file le rappel, laisse-toi glisser. Et vous, monsieur Warfield, n'attendez pas. Empoignez la corde à pleine main, sautez dans le vide. Dépêchez-vous. Ça y est, j'ai les cheveux qui tirent. Activez, mais activez donc, bon sang !» Warfield tomba, plutôt qu'il ne glissa sur la plateforme inférieure où le reçut le porteur. Au-dessus de leur tête, la corde se perdait dans le brouillard et ils attendaient la venue du guide lorsque une formidable lueur les aveugla. Une force inconnue les souleva de terre et les laissa retomber lourdement sur la dalle de granit où ils s'affalèrent, pantins meurtris et inanimés. Personne n'entendit le fracas épouvantable qui accompagna la décharge électrique, ni les grondements sourds de l'écho dans les gorges.